Gloire à Dieu, ben merci de m'accueillir avec vous et de partager cet après-midi ensemble. Je remercie Philippe qui a été l'intermédiaire et puis aussi votre pasteur. C'est avec une grande joie qu'on partage des moments. Excusez-moi si je laisse mon écharpe, mais je suis malade et je n'ai pas voulu rater le rendez-vous quand même. Je préfère garder mon écharpe et être là que d'être plus malade et puis de ne pas pouvoir m'exprimer. Voilà, merci au Seigneur qui nous rassemble. Si nous sommes là, c'est parce qu'avant tout, le Seigneur a touché nos cœurs, aux uns et aux autres, hein, pour la plupart d'entre nous. Et c'est lui qui a touché mon cœur il y a maintenant plus de 25 ans. Mon père était serviteur de Dieu et nous servions Dieu avec nos parents. On était 5, hein, j'ai un frère et une sœur, donc on était unis. Et quand un foyer est uni et qui sert Dieu, il y a quelqu'un à qui ça ne plaît pas, c'est l'ennemi de nos âmes. Si Dieu existe, forcément, il y a aussi le mal qui est là et qui veut empêcher Dieu de réaliser son œuvre. Depuis que Adam et Ève ont été créés, son but c'est de déstabiliser l'homme, de déstabiliser l'œuvre de Dieu et de s'opposer à l'œuvre de Dieu. Et du coup, mon père, tout doucement, s'est mis à l'écart. Et puis, c'est pas bon de se mettre à l'écart, mais tout doucement, il a commencé à s'éloigner un petit peu de ce à quoi le Seigneur l'avait appelé, la prière, la lecture, le ministère. Et puis, tout doucement, il est reparti dans le monde. Et moi, adolescent, 15 ans, j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, tout s'écroule. S'il y avait vraiment un Dieu derrière tout ça, ça ne serait pas arrivé. Et j'ai commencé à me rebeller. Et puis, mon père a quitté ma maman. J'avais 15 ans. Et quand c'est arrivé, le ciel m'est tombé sur la tête et puis je ne comprenais plus rien. Il nous avait enseigné l'évangile, il nous avait enseigné les valeurs de l'évangile. Et puis tout d'un coup, tout tombait à l'eau et plus rien n'était là. Et j'étais troublé. Et de l'âge de 15 ans à l'âge de 20 ans, je suis parti dans tous les sens. Et très vite, j'ai découvert les choses que le monde m'offrait. Vous savez, quand le diable il attaque un foyer, il n'y va pas de main morte. Hein, on l'appelle celui qui est venu pour égorger, pour tuer. Et c'est ce qu'il essayait de faire avec le foyer de mes parents et avec les enfants. Donc j'ai découvert malheureusement l'alcool, la drogue, et les rues, et les sorties. Et puis voilà, j'ai avancé comme ça. Puis un jour, on a fait une fête avec mes amis et ce soir-là, j'ai un ami qui est mort à cause de la drogue et de tout le reste, il est mort. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, la vie est trop difficile, il faut que j'arrête cette vie. C'est pas normal qu'il se passe tant de choses difficiles, moi j'arrête cette vie. Ou alors, il faut que je comprenne quelque chose, mais sinon j'arrête cette vie et je voulais en finir avec cette vie. J'étais au lycée, à Gaston-Berger, à Lille. Et ce midi-là, je suis sorti des cours, et au lieu d'aller manger, je suis allé dans le stade juste à côté. Et quand j'ai été dans le stade, j'ai marché quelques pas, et j'ai vu une rangée de peupliers à ma droite, j'ai vu le ciel bleu, l'herbe verte, j'ai vu la nature sans m'en rendre compte, et puis je me suis parlé à moi-même, et je me suis dit, mais tiens, Étienne, comme on te l'a dit quand tu étais petit, s'il y aurait un Dieu qui aurait créé tout ça, s'il y avait eu un Dieu qui avait créé tout ça, toute la nature, et en plus en 6 jours, il doit être vraiment fort. Hein. Alors s'il existe, il doit pouvoir te prouver qu'il existe, mais bon, ça, il ne te prouvera rien du tout parce qu'il n'existe pas, tu le sais très bien. Bah oui. Et tout d'un coup, je suis rentré un peu plus profond en moi-même. Je me suis dit, mais tiens, mais s'il a créé l'homme, comme on me l'a dit quand j'étais petit, il a créé mes yeux, lui, il doit voir. S'il a créé l'oreille, lui, le créateur de l'oreille, il doit entendre. Et puis j'ai dit, je ne sais pas si tu me vois, si tu m'entends, mais si tu as créé la bouche, pour toi parler, ça doit être facile. Alors si tu existes, prouve-moi que tu existes. Mais bon, tu ne me prouveras rien, parce que tu n'existes pas. Et j'avais vu quelques oiseaux voler dans le ciel auparavant, quelques lapins gambader dans l'herbe. Et quand j'ai tourné le dos au ciel et que j'ai voulu partir, les oiseaux que j'avais vus quelques instants plus tôt sont venus m'attaquer la tête. Je devais faire comme ça. Et j'ai été comme tétanisé, et je voyais les oiseaux battre des ailes comme au ralenti, et j'ai entendu une voix qui me disait « J'ai créé les oiseaux, j'existe ». Ça a été pareil pour les petits lapins. Et puis pendant 5 jours, le Seigneur a parlé à mon cœur, Et la certitude de l'existence de Dieu s'est installée dans mon cœur. J'étais tellement dur, j'étais tellement rebelle à toute chose et à Dieu surtout, que j'ai mis 5 jours à réaliser que Dieu m'avait vu, m'avait entendu et était en train de me répondre. Et bien sûr, au bout de 5 jours, je suis rentré dans ma chambre, j'ai fermé la porte, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai dit « Donc t'existes, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant ?» Et quand j'ai dit ça, il y a un petit cantique qu'on nous chantait sur les bancs de l'école du dimanche, qui disait « Nicodème, oh, Nicodème, oh, il faut naître de nouveau. Tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. » Ah ben j'ai dit alors dans ce cas-là, ben fais-moi naître de nouveau alors. Et puis une seconde fois, la voix de Dieu s'est fait entendre dans mon cœur quand j'étais sur mon lit dans ma chambre, regardant par la fenêtre vers le ciel. Si tu veux naître de nouveau, il faut que tu demandes pardon pour tes péchés. Et là j'étais un petit peu abasourdi. Pardon pour mes péchés, mais je ne suis pas plus pécheur qu'un autre, moi. Et puis, péché, quand je vois un malheureux, je lui fais du bien. Je ne suis pas le dernier pour faire du bien autour de moi, à mon prochain. Ah mince! Donc, si je ne demande pas pardon pour mes péchés, je ne vais pas naître de nouveau. Et maintenant que je crois qu'il y a un Dieu qui existe, donc il y a un paradis, je n'irai pas au paradis. C'est embêtant. Et je me suis remis en question. Et j'ai mis mes mains comme ça. Et j'ai parlé et j'ai prié pour la première fois de ma vie avec mon cœur. Pas comme on me l'avait appris quand j'étais petit avec ma tête, mais j'ai parlé avec mon cœur. Et j'ai dit, écoute, Dieu, puisque tu me dis qu'il faut que je te demande pardon pour mes péchés, alors sincèrement, je te le dis, tu le sais, de toute façon, je ne me sens pas pécheur, mais puisque tu me le demandes, alors je te demande pardon pour tous mes péchés. Et à ce moment-là, j'ai un écran qui s'est ouvert devant mes yeux. Et tous mes péchés ont défilé depuis mon tendre âge jusqu'à l'âge de 20 ans. Et tu as fait ça, et tu as fait ça, et tu as fait ça, et tu as fait ça. Et plus ça défilait, plus j'avais envie de me cacher. Et les larmes coulaient de mes yeux. Moi qui voulais pas pleurer, qui me croyais un homme. Je pleurais, toutes les larmes de mon corps. Et j'ai redemandé pardon, mais d'une autre manière. Convaincu que j'étais un pécheur. Je ne savais pas que c'était le Saint-Esprit qui nous convainc que nous sommes des pécheurs. Je l'ai su après en lisant la Bible. Mais il m'a convaincu que j'étais un pécheur et je lui ai demandé pardon sincèrement, en pleurant, en réalisant l'état de mon âme. Et là, une paix m'a envahi, le poids du péché est parti, et je suis né de nouveau. La nouvelle naissance m'a été accordée par la grâce de Dieu, et j'ai rejoint une église, donc à Lille, là où mon père avait prêché l'évangile. Et bien sûr, mon père n'était plus là, plus à la maison, et j'ai commencé à reprendre ma Bible que j'avais mis dans un carton depuis plus de 5 ans. J'étais donc un enfant de chrétien qui s'était éloigné. J'ai ma mère qui restait toujours fidèle. Je dois vous raconter les témoignages pour la prison, hein, je vais y venir. Mais Dieu connaît toutes choses. Et elle est restée toujours fidèle. Je me rappelle chaque matin quand j'étais rebelle, elle était à genoux dans la cuisine, et elle lisait la Bible, elle priait. Et parfois même elle dressait la table, on n'avait pas à manger, elle n'avait pas le permis. Les fins de mois étaient très difficiles, parfois il n'y avait pas à manger. Elle dressait la table, elle nous réunissait, elle disait on va prier le Seigneur. Elle priait le Seigneur et moi je disais elle est complètement folle. Et puis quand elle avait fini de prier, ou parfois elle n'avait même pas eu le temps de finir de prier, quelqu'un frappait à la porte et ramenait des sacs de commission, de course, avec du pain, du riz et des tas de choses. Et j'avais vu le miracle devant mes yeux, mais j'avais un aveuglement, l'aveuglement que le péché nous donne. Et puis ce jour-là, cet aveuglement est tombé. J'ai rejoint cette église et j'ai commencé à ouvrir ma Bible. Et puis un jour, j'ai dit, Seigneur, puisque tu m'as parlé, donc tu parles, je veux que tu continues à me parler. Il paraît que c'est ta parole, alors je vais l'ouvrir et je veux que tu me parles. On va voir, je vais te prendre au mot, on va voir si c'est vrai. Et je suis tombé sur le passage qui disait, c'est Jésus qui parlait à cet homme, qui disait, si tu viens à moi, je te sauverai toi et toute ta famille. Ah, je te prends au mot, Seigneur. Et j'ai mis un petit papier à l'endroit de ce verset. J'ai dit, mon frère n'est pas converti, ma sœur ne t'appartient pas et mon père est loin dans le péché. Alors je les note à l'endroit de ce verset, on va voir si ta parole est la vérité. J'étais naïf, j'étais tout jeune, converti, mais il est bon de faire confiance à la parole de Dieu. Quelque temps plus tard, mon frère s'est converti, et j'ai barré son nom à l'endroit du verset, sur la petite feuille que j'avais mise dans cette page. Quelque temps plus tard, ma sœur s'est convertie aussi, j'ai barré son nom et j'ai marqué « sauvé » à côté. Et puis ensuite mon père, je ne peux pas vous l'expliquer, ça serait trop long, mais à travers la maladie, le Seigneur a parlé à son cœur. Et dans un coma profond, il a permis que mon père revienne au Seigneur, revienne à la maison. Et puis on a retrouvé le chemin de la prière ensemble, la communion fraternelle, on a été remplis du Saint-Esprit ensemble. Il a repris sa guitare, on a chanté des cantiques et le Seigneur nous l'a laissé quelques mois pendant lesquels on a vécu une communion fraternelle intense par l'Esprit de Dieu. Et puis c'est ensuite que, que j'ai fait une prière au Seigneur plus tard encore. La prière, elle est importante, hein. Elle ouvre des portes. Et j'ai dit, Seigneur, quand je lis ta parole, je vois des choses simples. Je vois, comme on l'a entendu tout à l'heure par le texte que vous avez cité, que Jésus est venu pour délivrer, pour libérer les captifs, pour faire sortir de prison les captifs, et puis pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et puis quand je lisais ces passages-là, il me semblait tellement simple que j'allais chercher tous les SDF de la rue et je les ramenais dans l'église. Et parfois, il y avait des chrétiens qui faisaient des détours, qui faisaient des grimaces ou qui se pinçaient le nez. Et je dis, Seigneur, quand même, je voudrais que tu puisses envoyer des frères simples dans notre église et puis qu'on puisse vivre la simplicité de l'évangile. Et moi, dans ma jeunesse de jeune chrétien, je prie avec mon cœur tout sincère. Et puis Dieu m'a parlé dans mon cœur. Voyons, la prière, c'est ça, on parle à Dieu et Dieu nous répond. C'est vrai, hein? Amen. Et Dieu m'a dit, va chez les gitans. Va chez les gitans? Mais je connais pas de gitans, et puis on a peur de l'inconnu, de gens qui vivent dans un autre mode de vie, ça fait peur. Et puis cette pensée-là est tombée dans mon cœur, puis elle me quittait plus. Alors j'étais à l'université, et puis le Seigneur me disait, va chez les gitans, t'es pas à ta place, je te veux pas là, j'ai un plan pour toi. Comment je vais faire? Et puis on avait un culte de famille avec ma mère, et puis un jour j'ai dit, maman, je sais pas ce qui se passe. J'ai osé lui dire, je dis, je sais pas ce qui se passe, mais je suis sur les bancs de l'université, là, dans les amphithéâtres, et puis le Saint-Esprit me dit que je suis pas à ma place, que Dieu a un plan pour moi, et me dit d'aller chez les gitans. Et ma mère m'a répondu à ma grande stupéfaction, mon fils, fais ce que le Seigneur t'a demandé. Il lui avait déjà parlé, et puis elle savait que Dieu m'appelait un service pour lui, et donc j'étais surpris, mais quelques temps après avoir vu de nombreux campements de gitans, et avoir freiné, et puis avoir réaccéléré aussitôt, un jour je suis passé dans une petite rue à Haubourdin, et j'ai vu une maison construite, ça m'a rassuré, avec quelques caravanes devant. Et là, j'avais fait 100 mètres dans la rue, et puis le Saint-Esprit m'a dit, Dieu est vivant, hein, il parle, amen. Arrête-toi, fais marche arrière, et va demander s'il y a des chrétiens. Parce que je savais qu'il y avait une église évangélique tzigane, mais je ne savais pas où elle était. Et comme ils ne savent pas lire et pas écrire pour la plupart, en tout cas à l'époque, leur église n'était pas mentionnée dans l'annuaire. Et je n'arrivais pas à trouver l'adresse de cette église. Et du coup, je me suis arrêté, j'ai fait marche arrière, je suis descendu de ma voiture, je suis rentré par le portail devant cette maison, et il y avait un homme qui était les mains dans les poches et qui regardait en direction du portail. Et je me suis avancé vers lui, je lui ai demandé pardon, je me suis présenté, et puis je lui ai demandé s'il pouvait m'indiquer, s'ils étaient chrétiens déjà. Il m'a dit oui, tout à fait, nous sommes des chrétiens. Voilà, je suis à la recherche de l'église évangélique Zigane. Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous pouvez m'indiquer l'adresse? Il m'a dit, tu tombes bien, j'en suis le responsable. Et ça a été ma première rencontre avec les Tziganes. Et puis, donc, j'ai encore attendu. Puis un jour, je m'y suis rendu. Et j'ai trouvé une famille formidable, des gens simples. J'ai trouvé la simplicité de l'évangile. Et j'ai dit, moi, je veux vivre comme ça. La Bible dit qu'on est étranger et voyageur sur la terre. Moi, je l'ai pris au mot. J'ai dit, moi, je veux vivre dans cette simplicité-là. Et en fait, c'était l'appel que Dieu avait mis sur mon cœur. C'est pour ça que le Seigneur a conduit toutes choses. Et je me suis retrouvé parmi eux à découvrir des gens merveilleux, et puis à me lever pour le servir parmi eux, alors que j'avais reçu un appel pour le servir 7 ans auparavant, mais ce n'était pas le moment. Et puis je me suis mis à servir Dieu chez eux, et puis le temps a passé, j'ai été travailler dans mon cœur, j'aime les cas les plus difficiles, parce que je sais que mon père était loin, et je sais ce que Dieu a fait pour lui. Donc je sais que pour moi, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Je sais que ce qu'il a fait dans la vie de mon père, il peut le faire dans la vie de n'importe qui. Et croyez-moi que mon père était bien loin dans le péché. Il était lié par la puissance du péché. Et je sais que Dieu l'a délivré. Et cette certitude en moi fait que les cas les plus difficiles, ça m'attire. Donc je me suis dit, mais moi, j'aimerais bien aller en prison. Et j'ai prié pendant 9 ans pour pouvoir entrer dans les prisons. Et puis ça ne se faisait pas. Et puis, bref, un jour, on m'a téléphoné. Et puis un responsable de la mission de Tzigane m'a dit, on m'a dit que tu étais intéressé par la place d'aumônier des prisons. Et donc, il y a une place qui se libère dans le Nord, on a pensé à toi. Ah ben, je dis, j'en suis ravi parce que ça fait longtemps que j'attends ça. Et donc, je suis devenu aumônier de prison par l'intermédiaire de la Fédération protestante de France, puisque c'est elle qui installe les aumôniers de prison en France. Et donc, en 2011, je suis devenu aumônier de prison. J'attendais mon agrément, et chez les gens du voyage, il y avait une maman dont le fils était rentré en prison. Ça ressemble un petit peu avec le témoignage que je viens de vous donner. C'est que son fils était un ancien chrétien qui était converti, qui avait même reçu un appel pour servir Dieu, mais qui s'était aussi laissé éloigner et qui avait perdu pied dans sa foi et de fil en aiguille s'était retrouvé dans le monde et le voilà en prison. C'est bien pour ça que la Bible dit que celui qui est debout doit prendre garde de tomber. Et ça, cette maman-là me disait, « Alors, Étienne, quand est-ce que tu vas en prison? Va visiter mon fils et donne-moi des nouvelles, va l'encourager, va lui parler du Seigneur. » Et j'attendais mon agrément, il allait venir d'un jour à l'autre, et le jour est venu, j'ai reçu mon agrément, et là, mon cœur battait, j'avais pris soin de noter le numéro de sa cellule et le numéro du bâtiment, le nom du bâtiment où il était. Et un ancien aumônier m'a guidé et m'a montré un petit peu comment ça se passait. Et donc... on a déambulé dans les couloirs et puis on est arrivé dans le couloir où il y avait ce garçon-là et moi j'avais qu'une intention, c'était de pouvoir ouvrir sa cellule et puis de pouvoir lui dire que j'étais là pour prier avec lui. Et je suis arrivé près de sa cellule, j'ai mis la clé on a une clé pour ouvrir toutes les cellules, hein, c'est un pass quand on est agrémenté. J'ai tourné la clé dans la cellule. Ce que je ne savais pas, c'est qu'au même moment il avait dit à son co-détenu: on va prier le Seigneur, je l'ai connu dehors, aujourd'hui j'en ai besoin, j'en peux plus. Il avait des grosses difficultés bien sûr, c'était difficile d'être dans la prison, et il venait de prier, et il venait de demander au Seigneur de faire quelque chose pour lui. Et moi j'ouvre au même moment qu'ils étaient en train de prier, j'ouvre la cellule et j'ouvre comme ça. Ils ont ouvert les yeux comme ça, et son co-détenu qui connaissait rien de l'évangile a dit: mais t'as un Dieu qui répond à la seconde, c'est incroyable! Et puis lui, les larmes ont pété de ses yeux, bien sûr, et alors je suis entré, et puis c'était ma première rencontre avec un détenu. Alors nous avons prié ensemble, je l'ai encouragé, j'ai été le visiter pendant tout le temps de son incarcération. C'est en 2011, et c'est pas pour ça qu'il est revenu au Seigneur. Il a été touché plusieurs fois quand nous avons prié ensemble. Le Seigneur a montré sa miséricorde pour lui, son amour, sa patience, mais il est ressorti de prison, son foyer s'est divisé, il a perdu son foyer, il est parti encore plus loin dans le monde, et puis on a jeûné, on a prié pour lui, comme pour d'autres qui se sont éloignés de la maison du Seigneur. C'est bizarre, mais je parle de l'éloignement de la maison du Seigneur depuis que j'ai commencé. J'ai rien prévu. Moi, j'aime bien me laisser diriger, mais le Seigneur connaît toutes choses. Et puis là, il y a 15 jours, alors qu'on faisait des visites dans les caravanes, d'une visite à l'autre, on s'est retrouvé devant sa caravane à lui. Et puis on a frappé, et on est entré à plusieurs frères, on s'est assis, et puis on a parlé avec lui. Et j'avais une envie de prier. Ce que je ne savais pas, c'est que le frère à ma gauche et le frère à ma droite avaient la même envie de prier. Et ce qu'on ne savait pas, c'est que lui, dans son cœur, il disait: « Seigneur, pourvu qu'il prie. » Et puis tout d'un coup, on s'est dit: « On ne prierait pas un petit peu ?» Et tous les visages se sont émerveillés, et on s'est dit: « Oui, 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 on a envie de prier. » On s'est mis à prier, et ce garçon-là, il est revenu au Seigneur. Il a reçu la grâce, il s'est repenti amèrement. Il a pleuré pendant 3 jours. Et il ne faisait que demander pardon. Aujourd'hui, il est revenu dans la bergerie. Il est revenu vers le bon berger. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Voilà, donc ça, c'est un des témoignages. La première personne que j'ai rencontrée. Et j'aimerais en partager un autre avec vous. C'est un des premiers détenus que j'ai vu aussi. Donc, quelques temps après, j'y suis retourné. Et je demandais au Seigneur, bien sûr, de me diriger. Et là, on m'a indiqué une cellule d'un... Parce que moi, je suis aumônier de la Fédération protestante. Bien sûr que je vais vers tout le monde, mais principalement vers les gens du voyage, vers les Tziganes, hein, puisque je suis pasteur dans la mission de Tzigane. Donc, j'oriente mon ministère vers les Tziganes. Mais rassurez-vous, il m'arrive d'aller voir des sédentaires et des tas de personnes. Et le Seigneur touche les cœurs. Les uns comme les autres, une âme, c'est une âme pour le Seigneur, il ne fait pas de différence. Mais mon ministère s'orientant vers les Tziganes, on m'a indiqué la cellule d'un voyageur. Donc j'y suis entré, et quand je suis rentré pour la première fois dans sa cellule, c'était sombre, il était allongé, il avait des tatouages, il était donc tatoué, et il faisait très sombre. Et j'ai échangé quelques paroles avec lui, je lui ai dit que je faisais partie des gens du voyage aussi, puisque moi je me suis marié plus tard avec une fille des gens du voyage, hein. Mon épouse est Manouche, et nous avons 4 garçons. Et donc, on a parlé ensemble, et j'en suis venu à parler du Seigneur, du message de l'Évangile, du Dieu de la Bible, du Dieu qui est réel, qui a créé l'univers, que j'ai rencontré. Et c'est en racontant mon témoignage que je vous ai livré, que j'ai vu cet homme qui, au début, était un petit peu réfractaire avec l'Évangile. Quand il a entendu le témoignage que je vous ai rendu, que le Seigneur s'était révélé à moi, qu'il m'avait parlé à travers les oiseaux, les petits lapins, et à travers cette voix intérieure, et qu'il avait touché mon cœur, qu'il m'avait fait passer par la nouvelle naissance, j'ai vu qu'il était interpellé. Alors je lui ai demandé s'il avait la Bible. Il m'a dit oui, effectivement, j'ai la Bible, elle est là-haut, sur une étagère. Il y a un aumônier qui me l'a donnée il y a quelques années. Et je lui ai demandé, est-ce que tu l'as ouverte, la Bible ? Ben, il dit non. Je lui ai dit, c'est dommage, c'est le livre de Dieu. C'est un livre vivant. Il pourra parler à ton cœur. Et comme je vous l'ai raconté, quand je l'ai ouverte, il a parlé à mon cœur. Alors j'ai dit, toi aussi, il faut que tu l'ouvres. Il faut que tu fasses cet effort d'ouvrir la parole de Dieu. Et tu verras que Dieu parlera à ton cœur. Et je l'ai laissé sur ces quelques mots. Et quelques jours après, une quinzaine de jours plus tard, je suis revenu dans cette cellule. Cette cellule était éclairée. Il était assis sur son lit. C'est un garçon qui était paralysé du bas des jambes, dans une chaise roulante. Mais il y avait la lumière qui était rentrée dans sa cellule. Et il me disait qu'il avait lu la Bible et qu'il avait compris que Jésus l'aimait et qu'il lui avait donné son cœur. Cet homme-là, ça va faire 26 ans qu'il est emprisonné. Il est toujours en prison. Mais il a été libéré de sa prison intérieure. Il a rencontré le Christ qui l'a libéré de sa prison intérieure. Et c'est le message qu'on porte quand on va en prison. C'est que nous disons, on ne veut pas vous faire sortir de cette prison physique que l'on voit, mais on voudrait vous dire qu'il y a quelqu'un, c'est Jésus, qui libère de la prison du péché. Et c'est le message que l'on porte. Et des gens qui sont emprisonnés reçoivent le message de l'Évangile alors qu'ils sont dans une situation qui est difficile, hein, d'être entre quatre murs, c'est difficile, mais ils comprennent que le message va au-delà de ce qu'on peut voir avec les yeux, ils se reçoivent avec le cœur. Et ils sont libérés de leurs passions, libérés de leurs péchés, et ils connaissent la liberté alors qu'ils restent encore en prison. Il y en a qui sont sortis, qu'on a baptisés, gloire à Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, du baptême biblique par immersion. Et on fait des réunions dans la prison, et lors d'une réunion, j'aime bien leur dire à chaque fois à la fin, on va partager des expériences. Je leur demande toujours de partager des expériences. Et un jour, c'est Elbo, donc ce garçon-là qui est paralysé des jambes, qui a rencontré le Seigneur, hein, qui a fait des expériences formidables. Il s'est réconcilié avec sa maman, hein, il ne voulait plus entendre parler d'elle parce qu'il lui en voulait. C'est un gars difficile, hein, mais une fois qu'il a rencontré le Seigneur, qu'il a lu la Bible, un jour il m'a dit... J'ai lu dans la Bible qu'il fallait pardonner à son prochain, sinon on ne serait pas pardonné par Dieu. Alors j'ai pris la décision d'appeler ma maman et de lui demander pardon et de l'inviter à venir me voir au parloir. Donc il s'est réconcilié avec sa maman et puis ça c'était des signes de repentance. Et ce jour-là dans la réunion, il répond Elbo et il dit « Moi je voudrais dire quelque chose ». Ah, alors on t'écoute Elbo. On était plusieurs, il y avait plein de détenus ici et on était deux pasteurs. Et il s'adresse à un autre détenu et il dit, un tel, il dit, tu sais, je suis plus grand que toi. Et l'autre le regarde et dit, ben, puisque tu le dis, il est dans une chaise roulante assis. Ben, puisque tu le dis, certainement. Non, il dit, je suis plus grand que toi et je vais te le prouver. Alors, on était là, on ne comprenait pas ce qui allait se passer. Et là, il a commencé à caler les freins de sa chaise roulante. Et puis, il s'est mis à se lever sur sa chaise roulante. Et puis devant nos yeux, on avait prêché sur la foi. Il s'est mis à se lever et à marcher et à se approcher du garçon à qui il s'était adressé. Il lui a demandé de se lever et il était effectivement plus grand que lui. Et ce jour-là, on a été visité par la présence du Seigneur. On a un Jésus réel qui ne change pas, qui est toujours le même. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je pourrais vous raconter plein de témoignages, mais je ne voudrais pas monopoliser le temps. Je vais juste terminer en vous lisant un passage de la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont dans des situations extrêmes autour de nous, et notamment en prison. Et quand on leur annonce que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité, ils le reçoivent et ils trouvent la paix. Ils trouvent le pardon. Ils trouvent la réconciliation avec Dieu. Et le mur du péché qui les sépare de Dieu tombe, s'écroule. Et c'est vraiment important pour nous de prendre conscience que nous sommes des témoins. Tout à l'heure, quand je suis rentré, j'ai posé la question, cette église, elle existe depuis plus de 50 ans. Hein, Et c'est formidable de voir que l'œuvre de Dieu, personne ne peut l'arrêter. Elle continue. Et on doit prendre courage dans ces temps difficiles parce que le Seigneur a besoin de nous. Et j'aimerais vous dire, vous avez une belle église. Vous êtes une belle église. Et le message que j'ai à vous transmettre, écoutez-moi bien, je ne parle pas des murs, je parle de vous. Vous êtes une belle église parce que vous êtes l'église du Seigneur. Et chacun pour votre part, mon frère, ma sœur, tu es une pierre. Une pierre qui était peut-être morte et ensevelie et que le Seigneur a ressuscité et a fait vivre. Et tu es beau, mon frère, tu es belle, ma sœur, parce que tu fais partie de l'église du Seigneur, la véritable église. Et il va venir chercher son église et il ne prendra pas les murs que l'on voit. Mais il viendra te prendre si tu es fidèle et bouillant pour lui. Et le petit texte que j'ai mis là, c'est la parabole des conviés. Dans l'enseignement que Jésus donne sur le jugement des nations, hein, et vous savez que, on va lire quelques versets si vous me le permettez, hein, c'est dans Matthieu au chapitre 25, et je vais vous laisser avec ce texte-là. Au verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Les justes répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire ?» etc. Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Et ça, c'est le message que je voudrais laisser sur votre cœur. Bien sûr que vous ne pouvez pas aller en prison, mais vous pouvez prier pour les aumôniers. Et s'il y a bien quelque chose dont on a besoin, c'est du soutien de la prière de l'Église. On a besoin de vos prières. Amen. Voilà, je compte sur vos prières pour tous les aumôniers en France. Dans la mission de Zigane, on est 60 aumôniers. Je ne sais pas exactement le chiffre exact d'aumôniers en France, mais on est assez nombreux et ça évolue. Et on a besoin du soutien de vos prières. Et c'est pour ça que j'ai lu ce texte. Mais il n'est pas seulement question des prisons. Il est question de ceux qui ont soif, qui ont faim, qui sont nus. Et aujourd'hui, dans notre siècle, c'est l'individualisme qui prime. Chacun pense à soi-même, mais nous, l'Église, nous qui sommes des pierres qui étions mortes et qui ont été ressuscitées par la nouvelle naissance, on est revenu à la vie. On doit prendre soin de notre prochain et on doit donner à boire à celui qui a soif. On doit vêtir ceux qui sont dévêtus, qui ont froid. Il y en a beaucoup ici autour de nous dans l'agglomération lilloise. Amen. Voilà, je laisse ça sur votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Merci pour le partage que nous avons. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est un partage, c'est bien de partager. Hein. Voilà. Je laisse la place à votre pasteur.